Bonjour, on poursuivre notre étude du livre de l'Apocalypse. Nous étions au chapitre 5. On en est à la deuxième partie. Donc, on va relire le texte du chapitre 5 et après, on va faire quelques remarques avant de commencer l'exposition du texte lui-même. Alors, chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplis de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors, on se souvient que la semaine dernière, dans notre étude, on avait fait quelques remarques préliminaires qui sont nécessaires à la compréhension du texte. Il y en avait 3. La première, c'était celle que j'avais parlé, partagée concernant le pasteur Herman Oxema, qui, dans son livre « Behold, he cometh, an exposition of the book of the Revelation », alors, c'est « Voici, il vient », une exposition du livre de l'Apocalypse, et il nous fait une remarque qui est très importante pour comprendre, bien comprendre le livre. Alors, il fait la remarque suivante. Il dit que le livre est divisé comme en 2 grandes parties. La première, c'est les chapitres 1 à 3, dans lesquels on voit le Jean qui a une vision du Seigneur et qui a aussi, qui entend, qui voit les messages que le Seigneur veut adresser à chacune de ses églises. Et il voit la deuxième partie comme étant les chapitres 4, aller jusqu'à la fin, 82 en fait. Et il dit que si on veut bien comprendre l'ensemble du livre, on se doit de garder à l'esprit qu'il y a un thème pour un thème principal pour cette section-là. Et le thème est le suivant, le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu. Donc, autrement dit, après la chute, le royaume de Satan est installé, mais là, Dieu est en train, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, de remplacer le royaume de Satan par celui de Dieu, mais en Christ. Alors, on se souvient que les deux royaumes sont en guerre et que, bien entendu, le royaume de Dieu, la victoire finale du royaume de Dieu est acquise à cause que la victoire est assurée à cause de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ qui en sont en quelque sorte les preuves. Alors, on se doit de se rappeler un deuxième point aussi. On avait regardé un petit peu le chapitre 4, on l'a fait une étude, et on doit se rappeler que l'idée maîtresse du chapitre 4, c'est vraiment que tout est dirigé depuis le trône de Dieu. Alors, bien entendu, on faisait la remarque que, bien entendu, les journaux, les médias, la radio, Internet nous rappellent l'actualité et que cette actualité-là, bien entendu, ne rapporte que les causes secondaires. Et il nous rappelle que c'est la pensée et la volonté du Dieu Tout-Puissant qui contrôle et dirige toutes choses, en fait, dirige tout l'univers depuis le trône de Dieu et que, bien entendu, tient compte de la liberté, de la responsabilité et de la liberté des êtres humains que Dieu emploie. Et il nous rappelle l'idée que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Alors, le trône, bien entendu, de Dieu n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Alors, c'est vraiment la troisième idée qu'on a besoin de se rappeler aussi, c'est que les chapitres 4 et 5 sont des chapitres qui sont ensemble. Et celui-ci aussi, le chapitre 5, a une idée maîtresse qu'on se doit de garder à l'esprit. Alors, ces trois idées-là, il faut les garder à l'esprit tout au long, si on veut avoir une idée juste et une interprétation correcte du texte. Alors, l'idée principale du chapitre 5, c'est vraiment le livre qui est scellé de sept sceaux et que ce livre est remis à l'agneau pour que celui-ci le révèle aux siens et qu'il l'exécute aussi en même temps. Et lorsque l'agneau prend le livre de la main droite de Dieu le Père, il y a un concert de louanges qui s'élève, et on va regarder ça au cours des prochains versets. On avait regardé le contenu. La première idée, c'était le contenu du livre, et on avait déterminé que c'était le décret de Dieu. Le décret de Dieu concernant tout l'avenir de l'Église et de l'ensemble des choses qui se passeraient sur la terre à partir, aller jusqu'à la fin, pour montrer comme le Seigneur est au contrôle et que, alors, on avait le livre, donc son contenu, c'est vraiment le décret divin et il est situé dans la main droite de Dieu. Et on avait vu aussi que le livre est écrit en dedans et en dehors, ce qui signifie que tous les événements, qu'ils soient célestes ou qu'ils soient terrestres, sont inclus dans le décret de Dieu. Et bien entendu, cela nous parle de l'immuabilité des décrets. L'immuabilité, ça veut dire des choses qui ne changent pas. Donc, les décisions divines, qui ce sont le décret de Dieu et ou les décrets. Dans le fond, c'est un décret qui contient toutes les décisions concernant tout ce qui doit arriver dans l'avenir, tant au niveau de l'Église qu'au niveau du monde. Et ce livre-là est scellé de sept sceaux, c'est-à-dire que le contenu n'est connu que de Dieu le Père lui-même et que le Père est disposé à donner le livre, mais il faut que le livre soit donné à quelqu'un qui soit digne d'ouvrir, alors de prendre le livre et d'en délier les sceaux, c'est vraiment l'idée de recevoir le contenu, de le révéler aux siens et d'exécuter l'ensemble des choses. À chaque fois qu'un sceau est brisé, il y a des choses qui s'exécutent sur la terre. Alors, on avait vu qu'il y avait un ange puissant qui était dans le verset 2. Ça nous dit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux? Alors, bien entendu, on avait vu aussi que dans le verset 3, que nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait le lire ni le regarder. Et on voit dans le verset 4 à 7, là, on voit Jean qui est très attristé de voir qu'il n'y a personne qui répond à la question qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et ça dit, et moi, je pleurais beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure point. Voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les sceaux. Et je regardais, voici au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Alors, on avait vu que, au verset 4, que l'apôtre Jean pleure abondamment parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni même de le regarder. Tandis qu'au verset 5, ce qu'on avait vu, c'est que c'était un ancien qui lui a dit de ne pas pleurer et qu'il lui parle du lion de la tribu de Juda. Il lui parle du rejeton de David pour ouvrir le sceau. Alors, on pourrait s'attendre à ce que ce soit le lion qui ouvre et il nous mentionne dans le verset 6 que c'est. Il dit, je regardais et voici au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, ce qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, au verset 6, lorsque Jean regarde, il ne voit pas un lion, mais il voit un agneau immolé. Et on avait regardé dans Ésaïe 53, au verset 6 et 7, que l'agneau, les Écritures parlent du Christ, parlent du Messie à venir comme étant l'agneau. On relit tout simplement les versets 6 et 7 d'Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité. Il est affligé. Il n'ouvre point la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'ouvre point la bouche. Alors déjà, l'image de l'agneau est utilisée pour parler du Messie. Et dans Ésaïe 53, bien entendu, on parle du Messie souffrant. Le terme d'Ésaïe 53, c'est vraiment les souffrances du Messie. Et on a aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, le mot de l'agneau de Dieu qui est réutilisé. Alors vraiment, ici, quand il dit qu'il voit un agneau comme immolé, bien entendu, c'est sans aucun doute une référence à Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, ça dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, c'était Jean-Baptiste qui voit Jésus venir et il dit, voici l'agneau de Dieu. Alors ici, bien entendu, cet agneau-là a deux caractéristiques. Il y a sept cornes et les cornes dans les Écritures, souvent le symbole de puissance et d'autorité. Donc, autrement dit, c'est un agneau, mais il est puissant et il a l'autorité. Les sept yeux, bon, on croit que c'est les sept esprits de Dieu. Alors, on parle ici des sept yeux qui indiquent que ce Messie est rempli du Saint-Esprit. Et aussi, on parle aussi de son omniscience. Alors, c'est cet agneau-là qui s'est avancé, qui a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Alors, l'agneau est venu et a pris le livre de la main de Dieu le Père qui est assis sur le trône. Cela nous rappelle que Christ, comme médiateur, a reçu lors de son ascension l'autorité de gouverner l'univers selon le décret immuable de Dieu. En quelque sorte, c'est le couronnement de Christ après son ascension dans la gloire et l'honneur. On va aller lire un passage dans le livre d'Hébreux qui nous parle un peu du sujet. Hébreux chapitre 2, versets 7 et 8. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, car Dieu, lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Or, nous ne voyons point encore maintenant que toutes choses lui sont assujetties. On va regarder aussi le psaume 2, versets 1 à 9. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. « Rompons leurs liens, disent-ils, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère. Il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. » Alors le royaume est remis à Christ en récompense de son œuvre rédemptrice. Alors le Père ne quitte pas le trône, bien entendu, mais Christ vient s'asseoir sur ce trône à côté de son Père. Le trône devient celui de Dieu et de l'agneau. Donc Dieu gouverne l'univers par l'intermédiaire de l'agneau. Voilà sa récompense de Christ et notre réconfort, bien entendu. Le médiateur est introduit dans son office royal, et cela représente l'un des moments les plus importants de l'histoire. Si on s'en va dans Apocalypse 22, qui est vraiment le dernier chapitre, voici ce que nous lisons. « Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Alors le trône, dorénavant, va être dirigé à la fois par Dieu le Père et Dieu le Fils. Et c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que ces choses-là peuvent se faire. Alors ça nous dit dans les versets 8 à 14, on a vraiment une doxologie. Une doxologie, c'est une doxo, ça veut dire, doxa, ça veut dire gloire. Et logis, c'est les paroles, paroles de gloire, c'est l'ensemble des êtres vivants qui sont devant Dieu, et donc les anges, les êtres rachetés, et qui éclatent en chant de victoire et en louange à Dieu et aussi à l'agneau. Alors, à peine l'agneau a-t-il pris le livre ou le rouleau et accepté aussi la charge de roi de l'univers, qu'une grande joie s'empare de tous ses sujets. Alors, elle éclate en cri de triomphe et elle se traduit dans le texte des versets 8 à 14 par trois doxologies. Alors, nous avons reproduit de nouveau, dans ceux qui vont avoir les notes et ceux qui vont aller les chercher sur Internet, pour comprendre un peu, je vous parle de ce diagramme-là. Ceux qui sont sur Internet, qui vont télécharger la leçon, n'auront probablement pas ce diagramme à cause du fait que j'ai actuellement un problème avec. Il faut que j'aille chercher une image dans un livre, que je la scanne et que je la mette dans le document. Ce qui n'est pas fait encore, mais dès que les commerces vont pouvoir ouvrir ici à Lac-Mégantic, je vais pouvoir l'introduire et corriger les leçons qui sont déjà en place. Alors, c'est juste pour que vous sachiez que des fois, on va référer à ce diagramme-là qui est très important pour la compréhension, une meilleure compréhension du texte. Alors, on a reproduit justement cette illustration-là qui nous dit, l'illustration dit que l'univers est gouverné par le trône et elle nous montre que de comment les personnages autour du trône sont placés. Et tout est numéroté. C'est important pour voir comment la doxologie se répand à partir du centre à aller vers l'extérieur. Alors, c'est très important. Ça nous aide vraiment à comprendre davantage qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le Seigneur Jésus s'avance, prend le livre et là, ça provoque une triple doxologie. Alors, on va regarder la doxologie parce que les Écritures nous parlent de trois groupes à l'intérieur du verset 8 à 14. Les versets 8 à 10, ça nous parle de la doxologie du premier groupe qui comprend les chérubins. On avait parlé les anges qui entouraient immédiatement le trône, donc les chérubins et aussi les 24 vieillards. On avait parlé que les 24 vieillards, c'était les représentants d'Israël, donc les 12 tribus d'Israël, et aussi les 12 apôtres et leurs descendants régénérés, nés de nouveau, qui font partie de l'Église de Dieu. Alors, on va, dans le diagramme que ceux qui ont déjà les feuillets, vous regarderez, la doxologie du premier groupe, c'est dans le diagramme de l'annexe. Et c'est les cercles 4 et 5. Bien sûr, ceux qui ne les ont pas, ça va être un peu difficile à imaginer, mais éventuellement, ça va se corriger. Là, ça devra pas être très, très long. Apocalypse 5, versets 8 à 10, voici ce que ça dit. Et quand il eut pris le livre, les quatre animaux, donc ici on parle des quatre animaux, ce sont les quatre chérubins, et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Ici, une observation qui vient du pasteur William Hendrickson dans son livre sur l'Apocalypse. Voici ce qu'il dit, que je trouve une observation très intelligente. Il dit: On entend d'abord ceux qui se trouvent près du trône, les chérubins et les 24 vieillards. Ils se prosternent devant l'agneau et l'adorent. Chacun des vieillards tient une harpe et des coupes d'or remplies d'encens, symbole de la prière et de l'action de grâce dans son sens le plus large. Ils chantent un cantique qui est nouveau parce que jamais auparavant une telle délivrance n'avait eu lieu. Jamais l'agneau n'avait reçu un tel honneur. C'est le cantique de la rédemption. Ce cantique confirme clairement que le pouvoir que le médiateur a reçue sur l'univers constitue la récompense de ses souffrances et de sa mort. Alors, bien important de voir aussi dans le texte, il dit la chose suivante qui est importante, il dit les deux aspects limités et universels de l'expiation sont harmonieusement combinés. L'agneau n'a pas racheté tous les hommes, mais il a payé la rançon de ses élus, c'est-à-dire de ceux qu'il a appelés hors de toute tribu, de toute langue, etc. D'autre part, cette rédemption n'a rien d'étroit, elle n'est pas liée à une nation particulière, elle embrasse le monde entier et tous les groupes ethniques, tribus, linguistiques, les langues, politiques, les peuples, sociaux, les nations sont concernés. L'ensemble des rachetés forme un royaume et des sacrificateurs. Par le parfum de leurs prières, les saints règnent maintenant sur la terre. C'est intéressant parce que les Juifs, à l'époque, avaient tendance à croire que seul Israël était bénéficiaire du salut de Dieu. Et ici, on est en train de mentionner que toutes les tribus, toutes les langues, etc., toutes les nations vont recevoir la rédemption. Très intéressant de voir que vraiment le salut est présenté ici, comme on dit, dans sa dimension à la fois particulière et à la fois universelle. Universelle dans le sens que ce n'est pas uniquement les Juifs, mais toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus, toutes les races, etc. Donc, on a vu le premier siècle, le premier groupe. Le premier groupe, c'est les quatre chérubins et les 24 vieillards. Maintenant, dans le verset 11 et 12, on assiste à la doxologie deuxième groupe qui est tous les anges. Car on va lire les versets 11 et 12. Ça dit, « Puis je regardai et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. » Alors, dans certaines versions, on parle myriade de myriade, mais c'est comme milliers de milliers. Quand on parle de milliers de milliers, bien entendu, c'est des millions. Leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force et honneur et gloire et louange. » Très intéressant de voir cet aspect-là de plusieurs millions. Alors, on essaie d'imaginer qu'est-ce que pouvait être une louange qui venait de millions de personnes en même temps. Si vous avez déjà été dans des groupes où on est, c'est 200 ou 300 personnes qui chantent en même temps, il y a quelque chose d'impressionnant là-dedans, mais imaginez quand on parle ici de plusieurs millions qui louent Dieu en même temps, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Alors, si vous prenez votre diagramme pour regarder où se situe ce groupe-là, dans le diagramme de l'annexe, c'est le cercle 6, donc la multitude de tous les anges. Alors, l'apôtre Jean envoie des millions d'anges qui disent à haute voix, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et louange. Alors, ces sept qualités-là, qui sont mentionnées là, représentent toutes les qualités, en fait, du ciel et de la terre. Puis on dit, à l'agneau, toutes ces choses-là lui sont dues. Alors, le chant des vieillards s'élève le premier, car ils ont fait l'expérience du salut. Puis, celui des anges, car les vieillards leur ont fait connaître le mystère de la rédemption. Si on va dans le livre d'Éphésiens, par exemple, on a au chapitre 3, au verset 10, on a vraiment l'idée que le mystère de la rédemption a été manifesté, connu des anges. Ça dit, Éphésiens chapitre 3, verset 10, « Afin que la sagesse de Dieu infiniment diverses soient manifestées par l'Église aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes. Donc, on a le deuxième groupe, les anges. Premier groupe, les quatre chérubins et les 24 anciens. Deuxième groupe, les anges. Et le troisième groupe, toutes les créatures de l'univers. Alors là, c'est comme, il faut vraiment élargir. Plus ça va, plus le cercle s'en va vers l'extérieur, plus c'est large, plus il y a de monde qui loue le Seigneur Jésus. Alors, Apocalypse, les versets 13 et 14. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre animaux disaient Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui est assis au siècle des siècles. Alors, si vous regardez votre diagramme à l'intérieur, vous allez voir que si on parle ici, dans le diagramme, c'est le cercle 7, toutes les créatures de l'univers. Alors, les versets 13 et 14 nous parlent de la gloire et de l'adoration conjointe de Dieu et de l'agneau. L'univers entier loue Dieu et l'agneau pour leur œuvre de création et aussi de rédemption. On regarde, par exemple, Éphésiens, chapitre 1, versets 21 à 23. « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force ?» qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême de l'Église qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors voilà pourquoi tous les croyants n'ont rien à craindre lorsqu'il s'agit de tribulation, de persécution ou d'angoisse. Alors le décret divin est rassurant comme application. Première application, il y a quelque chose de vraiment rassurant dans le décret de Dieu. Nous savons que toute l'histoire des hommes et de la rédemption est dirigée du trône de Dieu, y compris les épreuves et les tribulations et l'avancement du royaume du Seigneur. Ce décret est immuable et invincible. Alors, toutes les décisions divines qui ont été prises concernant l'avenir de l'Église et l'avenir du monde en général, immuable, ça veut dire que ça ne changera pas, invincible, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, personne ne peut empêcher l'exécution des décisions divines. Deuxième application, Christ est assis sur le trône avec Dieu. Il est le maître de l'histoire. Il est le maître de l'Église, il est le maître du salut, il est le maître des jugements qui vont se déverser sur les ennemis de Dieu et sur les ennemis de Christ, et il est aussi le maître de la victoire finale qui nous est assurée en lisant l'ensemble de ce qui reste dans le livre de l'Apocalypse. La victoire finale nous est assurée. On est sûr que c'est la victoire finale, définitive, pour tous ceux qui ont mis leur... tous ceux qui ont reçu par la foi, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, pour leur destinée éternelle. Et troisième application, nous ne pouvons jamais donner trop d'honneur à Christ, à sa personne, à son œuvre et bien entendu à sa croix. Chose à se rappeler, nous ne pouvons, ne pourrons jamais donner trop d'honneur à Jésus-Christ, à sa personne, à son œuvre et à sa croix. Chose très importante à se rappeler pour nous. Alors, terminons en disant, adorons Jésus-Christ, notre grand et glorieux roi. Amen.